Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, ces tractations post-présidentielles, réunion notamment toujours en cours chez les Républicains. Emmanuel Macron, lui, est de retour à l'Élysée. Dans ce journal également, l'Allemagne qui donne son feu vert à la livraison de chars en Ukraine. Et puis RTL a rencontré les proches des deux individus abattus par un policier dimanche soir sur le Pont Neuf à Paris.
Nos deux focus du jour, Elon Musk d'abord qui s'offre Twitter, pourquoi faire, qui est vraiment l'homme le plus riche du monde, et à 12h50 la recette des centenaires, rencontre avec Sœur André, 118 ans, elle est née en 1904, nouvelle doyenne de l'humanité.
Et c'est notre question du jour sur RTL.fr, aimeriez-vous être centenaire? Vous dites non à 57%, oui à 30%,
étonnant,
vous aimeriez-vous Pascal?
Ah bah bien sûr si je suis en forme.
Notre météo c'est
ça va arriver plus vite que prévu.
Peggy Broche, bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Bon, ça reste nuageux au nord cet après-midi.
Exactement, surtout sur les régions au nord de la Seine avec des averses orageuses vers l'Alsace. En allant vers l'ouest, il y a plus d'éclaircies. Il fait beau entre la Bretagne, le sud-ouest et la Méditerranée. Un peu plus de nuages sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures, elles sont en légère hausse, globalement comprises entre 15 et 18 degrés au nord et 18 à 22 au sud.
Merci beaucoup Peggy. À tout à l'heure, 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Et avant de revenir sur les dernières tractations post-présidentielles, arrêtons-nous sur ces Français qui ont voté dimanche, mais qui n'ont choisi ni Marine Le Pen ni Emmanuel Macron. Presque un électeur sur 10, 8,6%. Alors il y a bien sûr les votes blancs, les votes nuls aussi. Le journal Le Monde les a épluchés et c'est parfois très drôle, Tom Lefebvre.
Oui, certains électeurs n'ont pas manqué d'imagination. Par exemple, on a eu le droit à des bulletins Jeff Tuch, du nom bien sûr du personnage principal de la comédie à succès. À Marseille, c'est certainement un fan de foot qui a rêvé d'un Zizou président. Notons aussi une attention particulière aux assesseurs d'un bureau de vote de Grenoble. Pas trop chiant le dépouillement, c'est lâcher un électeur sur un bulletin avant d'ajouter « Je ne vote pas, je prends juste de vos nouvelles ».
Plutôt sympathique. Il y a aussi des bulletins plus ironiques, plus piquants.
Oui, pour la candidate LR notamment, en pleine quête d'argent. Pour Valérie Pécresse, la pauvre, a écrit un électeur moqueur qui a glissé dans l'enveloppe une pièce de 1 centime. Et puis des bulletins Emmanuel Macron sont devenus Emmanuel McKinsey, Marine Le Pen s'est aussi parfois transformée en Marine Poutine. Enfin, certains Français n'avaient toujours pas digéré le premier tour. Dans l'urne, ils ont glissé des bulletins de Jean-Luc Mélenchon, de Jean Lassalle ou encore de Philippe Poutou qu'ils avaient visiblement gardé au chaud pour l'occasion.
Les électeurs ne manquent pas d'imagination. Merci à vous, Tom Lefebvre du service politique de RTL.
Et à peine le vote passé, autre bataille, celle des législatives.
Ouais, les cadres des Républicains sont réunis en ce moment même en conseil stratégique. Thomas Després, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL et pour certains, c'est un peu en marche ou crève.
Exactement. Et faut-il justement sanctionner ceux qui pactisent avec Emmanuel Macron ou non, alors que la droite vient de subir sa troisième défaite consécutive. Ce matin, il y avait effectivement deux lignes. Ceux qui seraient prêts à un accord de coalition avec La République En Marche. C'est le cas du maire du Touquet, Daniel Fasquelle, du patron des députés LR, Damien Abad, ou encore de l'ancien candidat au Congrès, le médecin Philippe Juvin. Il est arrivé ce matin un peu avant 11h et lui, il serait carrément prêt à rentrer au gouvernement.
Je suis le premier à avoir dit il y a 3 ou 4 semaines qu'il fallait que les partis de gouvernement travaillent ensemble. Donc je crois que les partis du gouvernement doivent travailler ensemble.
Voilà, Philippe Juvin, maire LR de la Garenne-Colombes. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux pour qui un accord avec Emmanuel Macron est tout bonnement impossible. C'est le cas de Julien Hubert, député LR.
Que ceux qui veulent passer la ligne rouge aillent vers les marches vertes, qu'est-ce que je vous dis, moi. Si demain, vous avez quelqu'un qui dit « je veux trahir Marine Le Pen », on fera quoi? Bon, une forme de cohérence. Ça fait 5 ans que je m'oppose à Emmanuel Macron. Et au bout de 5 ans, je lui dis « embrassons-nous Folleville parce que je pourrais perdre l'initiative ».
Ni Le Pen ni Macron, c'est la ligne officielle que devrait réaffirmer dans quelques instants Christian Jacob, le patron du parti, à la sortie de la réunion, sans pour autant sanctionner ceux qui cultivent l'ambiguïté. Analyse d'un participant, il faut surtout tout faire pour stopper la machine médiatique.
Thomas Després en direct du siège des Républicains rue de Vaugirard à Paris. Marion Maréchal était, elle, ce matin l'invitée de RTL. Celle qui est désormais vice-présidente de Reconquête regrette que la main tendue par Éric Zemmour ait pour l'instant été écartée, repoussée par le RN. Évidemment, s'il y a un constat de défaite successive et regrettable, ça n'enlève rien au mérite de Marine Le Pen qui a poursuivi ce combat. Je ne crois pas que le fait qu'Éric Zemmour ait fait ce constat sans en parallèle rappeler ce mérite puisse justifier le fait d'envoyer balader comme ça l'idée d'une alliance. Je ne crois pas que les petites phrases, une fois de plus, puissent décider du destin des Français pour les 5 ans à venir. Est-ce que l'enjeu, c'est de régler ses comptes, c'est de défendre son parti politique ou c'est d'essayer, une fois de plus, de servir l'intérêt des Français et des millions de Français qui sont depuis des années sous-représentés à l'Assemblée nationale.
Marion Maréchal, invitée ce matin d'Alba Ventura sur RTL.
Et puis retour à l'Élysée pour Emmanuel Macron.
Le président réélu y est rentré hier soir. Il poursuit ses consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement. L'actuel, lui, se réunira jeudi et non demain, comme prévu au départ, pour le Conseil des ministres. Et parmi les premiers sujets sur la table pour ce nouveau gouvernement, il y aura bien sûr le pouvoir d'achat et le prix des carburants. Bonjour Martial Youx.
Bonjour.
La prime de 18 centimes le litre est toujours en vigueur. Reste à savoir jusqu'à quand.
Oui, puisqu'elle dure jusqu'à fin juillet pour l'instant. Alors, on a compris que le gouvernement allait proposer un nouveau système, un peu mieux ciblé durant l'été. Aujourd'hui, tout le monde profite de la ristourne de 18 centimes. Les gros rouleurs, les petits, les riches, les modestes. L'objectif du gouvernement est donc de faire voter un dispositif qui ciblerait les ménages les moins riches et ceux qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler. On n'en sait pas plus à ce stade. La vraie question, c'est est-ce que les juilletistes qui partent en vacances vont bénéficier de cette ristourne et pas les Aoussiens. Puisqu'au gouvernement, on assure que tout ne sera pas débranché d'un coup, mais qu'on peut aussi supposer que l'exécutif ne va pas non plus prendre le risque d'une grogne sociale pendant les vacances. On peut supposer également qu'il voudra éviter les files d'attente aux pompes le 31 juillet lors du chassé-croisé. Ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours sur des prix du baril élevés. La tendance est même à la hausse ces derniers jours, autour de 102 euros ce matin. On a pris un peu plus de 6 centimes en quelques jours et le risque, c'est que cette ristourne ne finisse par être totalement absorbée.
Martial Youx, chef du service économie de RTL. La guerre en Ukraine avec cette réunion au sommet aujourd'hui en Allemagne. 40 pays autour de la table sur la base américaine Ramstein pour décider de l'envoi d'armes lourdes à Kiev. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Les États-Unis mettent clairement la pression sur leurs alliés.
Ah oui, les États-Unis ont débloqué au total 3,7 milliards d'euros pour l'aide militaire à Kiev et pour les alliés régionaux, les pays qui bordent l'Ukraine et qui veulent se défendre au cas où les Russes poussent plus loin. Alors aujourd'hui, le ministre américain de la Défense a été clair. Nous allons remuer ciel et terre, déclare Lloyd Austin, installé au milieu de cette énorme table en U, avec à ses côtés le ministre ukrainien de la Défense. Austin qui incite donc les alliés à envoyer des armes lourdes. Il s'adresse aux Européens, mais aussi aux Israéliens, Australiens, Japonais. Un discours qui commence à porter ses fruits. La France expédie des canons César d'une portée de 40 km, des missiles anti-char Milan. La Pologne fournit une quarantaine de chars. Et signe des temps, même l'Allemagne quitte sa posture de prudence pour annoncer l'envoi de chars anti-aériens Guépard.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL. Et dès ce matin, avant même le début de cette réunion, un nouveau coup de pression de Moscou. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a mis en garde contre un réel risque de troisième guerre mondiale. Ce sont ses mots.
RTL vous le révélait dès hier. Le policier qui a tiré dimanche sur une voiture sur le Pont-Neuf à Paris est toujours en garde à vue aujourd'hui.
Interrogé par l'IGPN, il s'agit de préciser les conditions de l'usage de son arme. Julie Bro, vous avez rencontré les proches des deux individus abattus.
Oui, sur une place au milieu de grandes tours d'immeubles, une vingtaine de personnes sont réunies. Toutes ont les yeux rougis par les larmes, trop émues pour parler au micro. Ce sont les amis, les frères, les sœurs de ces deux hommes âgés de 25 et 31 ans, deux demi-frères surnommés les petits du quartier. Ils étaient connus de la police pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le plus âgé l'était aussi pour vol et proxénétisme aggravé. Mais ici, on ne veut pas s'étendre sur le sujet. Je ne sais pas s'ils dilaient ce soir-là, le soir du drame, confie un de leurs proches. Et quand bien même, ils n'étaient pas justifiés de leur tirer dessus. Comme lui, tous ici me parlent d'une bavure policière. Pourquoi ont-ils tiré dans le pare-brise et pas dans les pneus, se demande l'un d'eux. Maintenant, pour faire notre deuil, me dit-on, on a besoin de savoir ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là.
Un récit signé Julie Bro. Le pape François a finalement choisi l'actuel archevêque de Lille pour succéder à Michel Aupetit. Laurent
Clément Ulrich, 70 ans, est nommé archevêque de Paris. C'est ce qu'annonce la conférence des évêques de France. Et puis, première sortie pour l'Alpine de la gendarmerie. On vous en a beaucoup parlé ce matin
sur
RTL.
J'ai entendu, effectivement.
Et oui, sortie sur la RN165 entre Auray et Lorient. Et pas encore d'excès de vitesse relevé, figurez-vous. Et oui, les Bretons sont sages, visiblement, au volant. Écoutez, Mickaël, le Padelec, maréchal des logis chefs, l'un des trois pilotes de l'Alpine de la gendarmerie du Morbihan.
C'est un retour aux sources pour nous. On revient sur un véhicule qui est 100% français. Vif, léger, facile à prendre en main. Le 0 à 100 en 4 secondes 5. Un véhicule rapide qui vient prendre la place de la Mégane RS qui a fait ses années de service. Donc un rajeunissement du parc qui est quand même bien intéressant.
Ça va adoucir le contrôle ?
On va le dire comme ça, oui. Certainement, ça participera là, aussi à avoir un bon contact avec les gens. Ça permettra un dialogue avec le sourire.
Quel... Le Padelec au micro RTL de Nicolas Bobby, c'est à retrouver bien sûr en images sur RTL.fr.
L'Alpine, elle est bleue comme Twitter est bleu, Elon Musk d'abord, ça sera le premier sujet dans une seconde, notre premier focus. Il s'offre Twitter, pourquoi ? Pourquoi faire ? Vous savez que tout le monde ne connaît pas Twitter, hein, ça concerne souvent les plus jeunes.
On va peut-être réexpliquer ce qu'est Twitter.
Exactement, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment et qui ne sont pas sur Twitter. À tout de suite.
RTL Midi. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Twitter a un nouveau patron qui s'appelle Elon Musk. Elon Musk s'offre Twitter, le milliardaire a acquis l'oiseau bleu pour 44 milliards de dollars avec un objectif affiché, faire revenir la liberté d'expression et...
C'est l'homme le plus riche du monde, le patron de Tesla, de SpaceX et donc désormais de Twitter. Elon Musk a réussi son pari, racheter le réseau social aux 330 millions d'utilisateurs réguliers. Alors pourquoi faire ? Quel est son objectif ? Et d'ailleurs, qui est vraiment Elon Musk ? C'est le premier débat de RTL Midi avec nous. Martial You, toujours chef du service économie de RTL, fidèle au poste. Et Olivier Lascar, journaliste, rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous signez une grande enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, qui doit sortir le 9 juin prochain aux éditions Alizio. Petit rappel d'abord, Martial,
pour faire plaisir à Pascal
et à ceux qui ne sauraient pas qu'est Twitter.
Mais oui.
Qu'est-ce que c'est Twitter ? Donc c'est un réseau social.
C'est un réseau social sur lequel vous avez la possibilité d'échanger des très court message, hein, avec un nombre très limité de
140 signes,
et vous avez une communauté qui vous suit et que vous vous suivez également.
Mais c'est anonyme, et c'est ça qui est important.
Tout n'est pas forcément
anonyme. Bien sûr, mais vous pouvez garder l'anonymat. D'où les insultes, d'où la haine, d'où
vous avez des pseudos, vous pouvez avoir un pseudo.
Mais on peut s'en servir aussi pour s'informer, pour communiquer. Les politiques s'en sont beaucoup servis ces dernières années.
C'est pour ça que c'est bien qu'on le reprécise, parce que ça reste quand même une communauté, certes, de plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde, mais très informés, beaucoup de journalistes et on va dire une certaine intelligentsia. Tout le monde ne va pas sur Twitter.
On discute pas forcément avec ses copains sur Twitter. Il y a d'autres réseaux sociaux pour
en
ça.
En France, Olivier, on ne sait pas combien d'ailleurs d'abonnés.
Je sais pas, faut demander.
C'est très mystérieux.
Ils sont très très flous. Comme beaucoup d'entreprises américaines, ils ne donnent pas les chiffres pays par pays. Donc du coup, c'est parfois difficile de savoir.
Olivier Lascar, pourquoi Elon Musk a voulu s'offrir Twitter ? C'est quoi ? C'est un caprice de milliardaire ou il y a un vrai projet derrière ?
Alors je dirais qu'il y a un peu des deux, hein, parce que Twitter est un des outils préférés d'Elon Musk. Hein. Elon Musk, milliardaire, propriétaire, comme vous l'avez dit, de SpaceX, qui fabrique des fusées, Tesla qui fabrique des voitures électriques qui promettent une autonomie totale un jour, elles pourraient conduire toutes seules ces voitures, on n'y est vraiment pas encore, mais c'est la promesse. Elon Musk qui fabrique aussi avec Neuralink des implants destinés demain ou après-demain à équiper les cerveaux pour contrôler par la pensée des machines. Ça paraît complètement fou, ça paraît de la science-fiction, mais il y travaille bel et bien. Eh ben, Musk, il a constitué sur Twitter une collection de fans extraordinairement importante, 83 millions de personnes, et ça lui permet d'avoir un accès direct avec ses clients, avec les gens qui suivent, j'allais dire presque ses aventures au jour le jour, parce que c'est la grande réussite de Musk d'avoir réussi à faire une sorte de storytelling permanent, hein, pour utiliser une expression à la mode, autour de son aventure entrepreneuriale.
Juste pour faire un calcul rapide, pour donner un ordre d'idée par rapport à ces 44 milliards, ça nous paraît colossal. Il a 83 millions d'abonnés, hein, on vient de le dire. Ça veut dire qu'il a mis 500 dollars par abonné direct à lui pour racheter totalement Twitter. C'est pas si cher que ça, Twitter, en réalité. Hein. 44 milliards, si vous faites le comparatif, Facebook est entre 500 et 1000 milliards. TikTok, le réseau chinois qui monte beaucoup, et j'ai regardé les chiffres ce matin, autour de 300 milliards de valorisation. Donc finalement, 44 milliards, c'est pas grand-chose pour s'offrir un média, comme autrefois vous aviez les milliardaires qui s'achetaient un journal ou une télévision. C'est encore vrai aujourd'hui. Hein.
Sauf qu'ils contrôlent pas forcément tous les messages comme un patron de presse contrôlait.
Non, mais on l'a bien vu sur
les recettes de Twitter. Twitter, ça gagne de l'argent ?
Non, c'est pas forcément rentable, Twitter, mais c'est de l'influence. On le voit sur les élections qui ont eu lieu ces dernières années,
alors,
notamment
ça,
les dernières là.
Mais les recettes, c'est quoi ?
Ah, bah, c'est de la publicité. C'est de la publicité.
Mais où de la publicité ?
Ah bah, vous le voyez si vous êtes sur Twitter, si vous êtes sur Facebook, d'ailleurs, sur la plupart des
Twitter,
réseaux.
Sur Twitter, où je la vois, la publicité ?
Eh bah, vous avez des petits messages entre deux messages qui vous intéressent. Vous avez une publicité pour, je sais pas moi, un site qui vous propose de vous livrer en 10 minutes chez vous vos courses. Vous avez
ça. Il y a marqué d'ailleurs tweet sponsorisé. C'est marqué quand vous regardez.
Donc, ça, c'est les recettes. Ouais. Mais elles sont différentes d'un pays à l'autre, forcément.
Oui, et bah, alors la grande force, et pourquoi c'est la publicité, c'est ce qu'on appelle la publicité ciblée sur ces sites-là, sur ces réseaux sociaux, c'est que la grande force qu'ils ont, c'est que précisément via leurs algorithmes, ils vont vous envoyer des publicités qui vous concernent directement, alors que les médias dits traditionnels, mainstream, comme on dit, eux, arrosent large en espérant trouver des clients.
Olivier Lascar, pour revenir à Elon Musk, il estime que la liberté d'expression n'était pas suffisamment respectée sur Twitter.
Oui, c'est ce qu'il dit pour justifier cet achat. Alors, c'est un argument à double tranchant parce que si on regarde l'utilisation que fait Musk de Twitter, et il arrose le réseau social largement avec ses tweets, alors ça va dans tous les sens. Il y a des blagues de potache, il y a des informations liées à la vie de ses entreprises. On voit que sa conception de la liberté d'expression, elle s'arrête à partir du moment où ça commence à empiéter sur ses plates-bandes à lui. Si vous regardez par exemple SpaceX, cette entreprise qui fait ces fameuses fusées qui décollent et qui se reposent au sol exactement comme la fusée Tournesol dans Tintin, il y a personne qui parle au nom de SpaceX à part Musk lui-même ou bien la numéro 2 de l'entreprise, Gwynne Shotwell. Il y avait un petit malin qui avait fait quelque chose d'assez rigolo. Il avait suivi les pérégrinations du jet privé d'Elon Musk autour du monde. Et il avait publiait à chaque fois que l'avion faisait un petit tour, il publiait les itinéraires en commentaire des tweets de Musk pour montrer que le milliardaire, évidemment, n'avait pas un tempérament très tempéré par rapport à l'émission des gaz à effet de serre. Bon, et ben, les tweets en question et le commentateur en question, il a été bloqué par Elon Musk. Donc on voit que sa conception...
C'est quand ça l'arrange, en fait.
C'est quand ça l'arrange, ouais.
Mais c'est vrai que c'est un champ de haine, Twitter, et d'apprendre qu'il n'y aura pas ou peu de modérateurs, ça peut inquiéter, disons-le.
Disons que lui, il est dans une position, c'est un mouvement politique aussi aux États-Unis qu'on trouve beaucoup dans la Silicon Valley, qui est le mouvement dit libertarien, c'est-à-dire liberté totale d'expression, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a quand même des garde-fous et des lois fédérales.
Pourquoi pas, d'ailleurs, si l'anonymat était levé, je dirais, pourquoi pas ?
C'est un débat.
Mais
oui.
L'anonymat permet à ce champ de haine, précisément.
Mais bien sûr, mais alors, après, la question qui se pose au travers du rachat de Twitter par Elon Musk là, c'est précisément, est-ce qu'il a des intentions politiques derrière, c'est-à-dire d'utiliser, comme l'a fait Trump auparavant, d'utiliser ce réseau social comme un tremplin politique pour agréger ce mouvement libertarien. Et vous avez énormément de grands noms de la Silicon Valley qui sont évidemment de fervents défenseurs de la liberté d'expression, et notamment Peter Thiel, qui est celui qui avait, avec Elon Musk, fondé PayPal, et qui sont des militants justement, eux, pour dire il faut qu'on ait la liberté totale d'expression, ce qui est interdit par la loi encore aujourd'hui.
Il a des ambitions politiques, Olivier Lascar ?
Alors évidemment, tout ce qui vient de dire est tout à fait juste, mais moi je ne suis pas sûr que Musk aspire à avoir un rôle de fédérateur de la mouvance libertarienne. Je pense que Musk, il s'intéresse beaucoup à Musk, et il arrive à un point où dans toutes ses entreprises, d'un point de vue technologique, il est arrivé à une maîtrise à peu près... pas parfaite, parce que les choses peuvent être améliorées, on le voit bien avec Tesla par exemple, mais sa problématique, le mur sur lequel il se casse le nez maintenant, c'est c'est le mur législatif. Je parlais tout à l'heure des implants cérébraux de l'entreprise Neuralink. Ces implants qui promettent qu'un jour on contrôlera les ordinateurs par la pensée. Aujourd'hui, on ne peut pas opérer le cerveau d'une personne saine, un cerveau sain, on ne peut pas l'opérer pour l'appareiller, pour expérimenter ce type de produit. Donc ça veut dire qu'il lui faut un cadre législatif, je dirais presque ultra-libéral, pour pouvoir développer les entreprises dans le sens qu'il veut. En ayant un instrument d'influence comme Twitter, c'est une façon d'avoir l'oreille des politiques.
Nous l'avons compris.
Etc.
Dernière chose, parce que c'est important, la question Trump. Est-ce que Trump va revenir sur Twitter ?
Eh bien, écoutez, si Musk réouvre le compte de Trump, ça fait cher, hein, le compte Twitter à 44 milliards de dollars. Ouais. Mais c'est une perspective. La question se pose. Hein, et s'il fallait parler, moi, je pense qu'on va revenir. Oui, je pense que Trump va revenir sur Twitter.
Eh ben, il y a un chien derrière vous. Il y a un chien, il est sur Twitter peut-être.
Le réseau social.
Exactement.
Merci. Et on rappelle votre livre, Olivier Lascar, qui sort donc début juin, le 9 juin. Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, est publié chez Alizio.
Olivier Lascar, ça fait peur quand même, ces implants, effectivement, dans les cerveaux. Et d'expliquer que le problème de Musk, c'est un problème législatif, parce que la loi ne permet pas aujourd'hui d'ouvrir un cerveau qui est en bonne forme. J'ai envie de dire, heureusement. Il est 12h51, l'autre thème du jour, c'est les centenaires. Vous rêvez d'être centenaire, cher ami ?
Ah bah écoutez, moi, oui, pourquoi pas. Alors, si c'est en bonne santé, si en avec bonne des santé, implants oui. d'Elon de Musk, on peut l'espérer. Bah,
exactement, avec des implants, voilà. sur la tête. Oui. 12h51, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
J'ai 118 ans. Je souhaite du bonheur pour les enfants, qui n'est pas la vie que j'ai eue. Parce que vous savez, j'ai eu la guerre d'Algérie, ça n'a pas été drôle.
Est-ce que vous avez un message à adresser aux auditeurs de RTL ?
D'être généreux et de pouvoir seconder les plus pauvres.
Ça, c'était le 11 février dernier. Sœur André venait de souffler ses 118 bougies, 118 ans. La voilà depuis hier, doyenne de l'humanité. Sœur André qui vit à Toulon, dans une maison de retraite. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour.
Et vous l'avez donc rencontré ce matin.
Ah oui, et comme à son habitude, hein, lorsqu'elle rencontre des journalistes, Sœur André est arrivée habillée dans ses vêtements des filles de la charité, avec son voile bleu marine sur ses cheveux coiffés. À part les poussées, elle était dans une chaîne roulante poussée par David Tavel, celle qu'elle appelle avec malice son impresario. Et puis, donc, évidemment, première question, qu'est-ce que ça lui fait d'être la nouvelle doyenne de l'humanité ?
Une fierté, mais un désastre.
Un désastre ?
Oui, parce que je voudrais rendre aux autres ce qu'ils m'ont donné.
Et pourtant, elle a beaucoup donné, Sœur André, puisqu'elle a commencé par être la gouvernante de la famille Peugeot. C'était à Paris et c'était au sortir de la guerre. Alors attention, pas celle de 39-45, non celle de 14-18, évidemment. Elle devient ensuite religieuse en 1944, puis elle s'occupera d'enfants et enfin de personnes âgées, alors qu'elle est dans un EHPAD en Savoie, où elle était elle-même pensionnaire. Elle arrivera ensuite ici à Toulon et c'est peut-être là l'un de ses secrets de longévité.
Oh, ça alors, c'est le bon Dieu qui le sait.
Ah oui.
Parce que on dit que le travail, ça vous tue. Moi, je dis, fait vivre. J'ai travaillé tant que j'ai pu jusqu'à 108 ans.
Alors, quant à son hygiène de vie, Sœur André apparaît-il encore un bon coup de fourchette et chaque midi, elle prend.
Ah oui, ça alors, j'aime le vin.
Et voilà, un verre de vin et aussi à l'occasion un petit verre de Porto et puis aussi des chocolats, c'est son autre péché mignon. Le maire de Toulon, Hubert Falco, était là ce matin et il lui a fait un cadeau et c'était des chocolats, écoutez.
Je sais que vous aimez les chocolats et les calissons.
Ah oui, mais vous les avez mis où ?
Ils sont là, ma sœur, ils sont là, regardez, tenez, voilà. Voilà, dans le tiroir, je vais les donner à David, là. Voilà.
Voilà, et donc c'est tout à fait rassurant, hein, un petit verre de vin tous les jours, un doigt de Porto et quelques chocs de temps en temps. Bon, écoutez, c'est plutôt rassurant ça, non ?
C'est décomplexant en tout cas. Merci beaucoup Étienne Baudu en direct de Toulon. Alors justement, est-ce qu'il y a un secret pour être centenaire ? On va poser la question à Nathalie Salle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Vous venez d'entendre, j'imagine, ce rendez. Le travail fait vivre, dit-elle. Jusqu'à 108 ans, elle a travaillé. Il y a ce petit verre de vin, ces chocolats. Est-ce que vous retrouvez le témoignage d'autres centenaires dans le sien ?
Complètement. Bon, déjà, je voudrais saluer le magnifique message de ce rendez que je viens d'entendre. Et effectivement, on retrouve tout ça. En fait, les recettes, il faut garder les vieilles recettes. Hein, elles sont toujours d'actualité. Se faire plaisir. Par exemple, si on parle de l'alimentation, il faut une alimentation variée, équilibrée. Voilà. Se faire plaisir, manger de tout. Et surtout, pas oublier, comme elle le dit, hein, en se faisant plaisir avec un petit verre de vin, un morceau de chocolat, aller manger un bout de gâteau avec ses petits-enfants au goûter, etc. Après, il y a des choses plus spécifiques, si vous voulez qu'on en parle, pour que le vieillissement, finalement, soit le mieux en termes de bonne santé le plus longtemps possible, et aussi en termes d'autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire garder la possibilité de marcher le plus longtemps possible. Et là, nous, en gériatrie, on s'appuie sur la prévention autour de deux piliers incontournables. Alors, il y a l'alimentation. Et on va insister sur bien manger, de tout, assez, en insistant sur les vitamines, les fruits, les légumes, enfin tout ce qui est de l'ordre du régime méditerranéen hein, qu'on connaît tous, l'huile d'olive, les fruits secs, etc. Alors pourquoi ? Parce que ça apporte des acides gras riches en oméga 3. Il a été démontré que c'était protecteur pour les artères, pour notre cerveau et pour éviter certaines maladies graves comme les cancers.
Effectivement, on imagine que le régime est important. Mais moi, je voulais vous poser une autre question. Est-ce qu'on sait, parmi ces 26 000 centenaires, si leurs propres parents étaient déjà allés au-delà de 90, 95 ans, voire 100 ans ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Ça, on ne le sait pas toujours.
Parce que j'ai souvent l'impression qu'il y a des familles où on vit vieux. Effectivement, et puis il y a des familles, hélas, où on vit moins vieux.
Oui, oui. Il y a des facteurs génétiques hein, qui rentrent dans le...
Il n'y a pas de statistiques là-dessus.
Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Je pense qu'on n'a pas encore assez de centenaires pour faire des statistiques. Mais il y a effectivement des facteurs génétiques qui rentrent en compte hein, dans l'espérance de vie. On le sait. Mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est le suivi et le soin des maladies chroniques et la prévention. Voilà, si on est sédentaire, sans activité physique, et qu'on ne mange pas très bien, qu'on se sent seul...
Effectivement, là, c'est...
Et qu'on a des maladies chroniques... Non, mais c'est vrai. Hein. Et c'est là qu'en fait, toute l'action, si vous voulez, de la médecine va apporter des points positifs, puisqu'on va éviter, en surveillant mieux ces maladies chroniques, des catastrophes, dont l'entrée à l'hôpital, etc., et permettre de vivre longtemps, même avec une maladie chronique, mais si elle est bien surveillée, sans rentrer dans la dépendance. Donc c'est quand même très important, même dans des familles où génétiquement on n'a pas effectivement de centenaire dans toute la famille, de faire de la prévention tout le long de sa vie, même si on a une maladie chronique, pour éviter la dépendance. Donc, il y a beaucoup de choses à faire.
La question va de plus en plus se poser, puisqu'il y a près de 26 000 centenaires, donc on le disait, en France aujourd'hui, et ils seront 13 fois plus nombreux d'ici 2070. Hein, d'après l'INSEE, la France comptera alors 540 000 centenaires.
C'est effectivement un sujet qui sera au cœur des actualités les prochaines années. Merci Madame Salles et on va évidemment avec les auditeurs les interroger tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont envie d'être centenaires ? Pour le moment, on va parler du Premier ministre dans une seconde. Il y a peu de chances qu'il soit centenaire. La pause, à tout de suite.
RTL Midi.